7-9.
Nous sommes le mardi 1er mars. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Anaïs Fega.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la deuxième ville d'Ukraine sous les bombardements et les taux de l'armée russe qui se resserrent sur Kiev. Impressionnant convoi militaire ce matin aux portes de la capitale ukrainienne. Nous faisons le point de la situation dès le début du journal. Un gros plan également sur le Royaume-Uni qui, à son tour, prend des sanctions contre les oligarques russes. Les autres titres, Anaïs.
Les pensions alimentaires des divorcés désormais versé directement par les caisses d'allocations familiales. La France était à la traîne, un pôle Cold Case ouvre aujourd'hui à Nanterre et puis des années pour retranscrire au piano les symphonies orchestrales de Mahler, on vous raconte à la fin du journal.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra Ben Saïd.
L'Ukraine doit-elle devenir membre de l'Union Européenne? Le Parlement Européen va se prononcer aujourd'hui à 7h50. L'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann, qui connaît très bien le pays, qui était sur place lors des révolutions Orange et de Maïdan, il sera notre invité.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale consacré aux conséquences économiques de ce conflit avec le président de la CPME, François Asselin, et l'économiste Élie Cohen. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des quartiers résidentiels sous les bombes russes, c'est la dramatique réalité de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine où ça tape très fort et de manière de plus en plus aveugle. Lance-roquettes, combats de rue dans cette ville de l'est du pays à la frontière russe. Bilan incertain, au moins 11 personnes tuées hier, mais il pourrait y en avoir des dizaines. Juliette G a joint Alice, une Ukrainienne de 24 ans qui vit à Kharkiv avec sa famille.
La jeune femme qui travaille à l'Alliance française de Kharkiv a entendu des déflagrations toute la journée.
Oui, on entend des explosions. On attend des tirs d'artillerie. C'est beaucoup d'explosions qui se passent dans un rythme très intense. Et ça fait peur vraiment.
Les sirènes résonnent autour d'elle. En revanche, elle n'entend plus le bruit des avions de défense ukrainiens. Un étudiant de son université est décédé sous les tirs.
C'était un élève brillant qui s'est présenté comme un volontaire pour protéger la ville lui-même. Et aujourd'hui, il est mort.
Elle vit dans un immeuble à deux stations de métro, à quelques kilomètres des quartiers ciblés. Mais elle ne peut pas vraiment se protéger en sous-sol.
On ne peut pas descendre dans un cave ou au métro. Tout d'abord parce que c'est assez loin et le cave qui est dans mon immeuble n'est pas une bonne option. Et dans ma famille, il y a ma grand-mère qui a 82 ans. Elle ne peut pas bouger rapidement. Donc, si les bombardements sont vraiment tout près de chez moi, on se protège dans la salle de bain.
Pas question pour autant de quitter sa ville.
Tout d'abord, je perds pas l'espérance. Deuxièmement, je veux pas me séparer de ma famille.
Son père et son petit ami ont pris les armes pour défendre Kharkiv.
Kharkiv sous les bombes, mais Kiev semble bel et bien l'objectif numéro un de l'armée russe. Un convoi militaire russe s'étend sur plus de 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale. Valentin Dunat, vous êtes à Kiev, bonjour.
Bonjour.
C'est ce qu'on voit en tout cas sur des images satellites diffusées ce matin par une société américaine.
Ces photos prises par un satellite américain montrent en effet un convoi qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le début de ce convoi, composé de blindés, de chars et de pièces d'artillerie, est selon ces images à 25 kilomètres du centre-ville de Kiev, du côté ouest de la ville. Il s'étend des abords de l'aéroport Antonov à la commune de Pribirsk, autrement dit, toujours selon cette société d'imagerie satellitaire. Il fait un peu plus de 60 kilomètres de long. Cette société précise également que ces blindés sont parfois très distants les uns des autres. Sur d'autres portions, les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front. En revanche, à l'heure actuelle, il m'est impossible de déterminer si le convoi est en mouvement ou s'il est statique. Les médias ukrainiens reprennent cette information, mais aucune source officielle ukrainienne n'a pour l'instant confirmé ou infirmer la présence de ce convoi russe aux portes de la capitale. Valentin Dunat, Arthur Gerbeau, France Inter.
Et devant cet assaut qui semble se préciser, la France transfère son ambassade de Kiev à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. La France qui va par ailleurs permettre aux Ukrainiens en fuite de circuler gratuitement sur les TGV et les intercités. Les modalités seront précisées rapidement.
Et côté diplomatie, c'est depuis hier un déluge de condamnations contre la Russie.
Venu en plus de l'Occident, d'Amérique latine et d'Afrique, une litanie d'interventions tellement nombreuses à la tribune de la l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies que la résolution ne sera sans doute pas votée avant demain. Seul soutien notoire de la Russie, la Syrie. Côté sanctions, Monaco emboîte le pas à l'Union européenne. L'Europe a d'ailleurs étoffé hier soir sa liste noire des personnalités russes ciblées. Y figure désormais le porte-parole du président et des oligarques interdits de séjour en Europe et visés aussi, Richard Place, par les Britanniques.
Ils habitent dans le quartier Belgravia, à deux pas de Buckingham, à Highgate, dans le nord de la capitale, ou dans le quartier fermé ultra sécurisé de St. George Hill, dans le Surrey, surnommé le Beverly Hills britannique. Des milliardaires russes installés ici à partir des années 2000, quand le gouvernement les accueillait à bras ouverts, familles comprises, dès lors qu'ils investissaient plus de 2 millions d'euros dans le pays. Le vent tourne, fini ces visas dorés, et Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, les menace clairement, c'était hier à la Chambre des communes.
Nous continuerons à travailler sur notre liste d'oligarques en nous concentrant sur leurs maisons, leurs yachts et tous les aspects de leur vie. Nous allons traquer leur argent sale au Royaume-Uni.
Cette liste noire est appelée à s'allonger. L'opposition demande d'y inclure notamment Roman Abramovich, le propriétaire du club de foot de Chelsea. On parle alors de confiscation des biens. Un bataillon d'avocats sollicité par le gouvernement planche actuellement sur ces mesures. La nouvelle loi présentée aujourd'hui doit clarifier les investissements et rendre impossible des achats sur le sol britannique au nom d'une société sans connaître l'identité du propriétaire en bout de chaîne. Londres, Richard Place, France Inter.
Et décidément, rien ne sera plus comme avant. Le CIO rompt avec sa tradition de neutralité et recommande le bannissement de la Russie et de la Biélorussie du sport mondial. C'est fait pour le football. La Russie exclue du mondial. Les fédérations de hockey et de rugby font de même et on attend demain la décision du Comité international paralympique pour les Jeux qui s'ouvre vendredi. En France, l'Ukraine s'invite dans la campagne présidentielle. Les parlementaires reviennent sur les bancs des hémicycles. Débat cet après-midi à l'Assemblée nationale. Avant le Sénat à 19h. Les groupes parlementaires vont se positionner après une déclaration du gouvernement, Maxence Lambrec.
À quoi bon débattre quand seul le président est aux commandes? Question légitime à laquelle répond le député LR Pierre-Henri Dumont.
C'est extrêmement important, justement, parce que cette guerre est une guerre entre une dictature et une démocratie, que la démocratie puisse prendre toute sa place et que donc nous continuions évidemment à avoir des débats et que chaque position puisse s'exprimer et surtout que les masques puissent tomber.
Il vise le RN, les amis d'Éric Zemmour et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon compte bien clarifier sa position. La campagne ne sera pas bien loin, mais à droite, on veut jouer l'unité.
Dans ce contexte, nous ne soutenons pas évidemment l'action globale du président de la République, mais nous sommes derrière celui qui, aujourd'hui, est le chef des armées.
Les socialistes vont aussi tenir cette ligne. À l'issue des discours, pas de vote, pas d'autres débats prévus, mais les travaux parlementaires ne sont que suspendus. Le président de la Commission des affaires économiques, Roland Lescure, compte bientôt interroger le ministre de l'économie.
J'ai pris contact avec Bruno Le Maire pour qu'on organise une audition, alors qu'on pensait que la dernière, c'était la semaine dernière, pour qu'il puisse à la fois nous présenter les sanctions dans leurs détails et surtout commencer à évaluer l'impact sur l'économie française. Donc oui, quand il y en a plus, il y en a encore, malheureusement.
D'ailleurs, Bercy prépare au cas où un projet de loi de finances rectificative si un plan d'aide massif devient nécessaire. Les parlementaires reviendraient alors.
Et retrouvez sur franceinter.fr un dossier complet sur les pourparlers, les sanctions et la guerre en Ukraine.
Grand changement aujourd'hui dans le versement des pensions alimentaires en France.
Plus besoin pour les divorcés de courir après la pension que leur doit leur conjoint. C'est directement la CAF qui avance l'argent et récupère la somme ensuite. 1 million de familles concernées, alors que près d'une pension sur trois n'est pas versée de façon régulière, Agnès Soubiran.
Au début, cette maman de deux petites filles de 9 et 11 ans n'a rien dit lorsque la pension alimentaire fixée à 320 euros par mois n'était pas versée ou qu'en partie. Mais la situation est rapidement devenue intenable. Le parcours du combattant a alors commencé et ce sont les agents de la caisse d'allocation familiale qui ont pris le relais.
Ils ont envoyé plusieurs courriers en recommandé. Monsieur n'a jamais répondu, donc après ils ont été directement à l'employeur. L'employeur au début ne réglait pas. Donc la CAF, en attendant que je sois payée, me versait l'allocation de soutien familial. Après, donc, ils ont réussi, après maintes et maintes courriers, à ce que l'employeur envoie un chèque tous les mois.
Des mois d'attente et des explications pas toujours faciles à donner aux enfants.
Je lui disais que normalement, papa devait m'aider, mais que bon, bah, papa avait des petits soucis sans rentrer dans trop les détails. Je pense que ça ne le regarde pas vraiment forcément, mais leur expliquer que je ne pouvais pas leur payer dit tout ce qu'il voulait.
Aujourd'hui donc, la CAF sert d'intermédiaire, ce qui a permis aussi d'apaiser les relations entre les parents.
On n'en parle plus, ça c'est plus un sujet de discorde entre nous deux, ça c'est sûr et certain. Les choses sont faites au fur et à mesure et puis je suis plus sereine, oui, ça c'est sûr.
Une sérénité après des années de bataille, cette généralisation du système devrait justement éviter ces procédures interminables.
Autre nouveauté sur le terrain judiciaire cette fois, des juges spécialisés pour les crimes non résolus. 240 affaires auraient vocation à rejoindre ce pôle qui est installé aujourd'hui à Nanterre, avec à sa tête la juge qui avait repris le dossier d'Estelle Mouzin et fait parler le tueur en série Michel Fourniret. Ce pôle, c'est l'aboutissement du combat de deux avocats, Didier Seban et Corinne Herman, qui accompagnent le père d'Estelle Mouzin et les proches des disparus de Lyon.
C'est un combat de 20 ans et nous le demandions parce que nous avons constaté combien la justice ne fonctionnait pas sur ces crimes oubliés, sur ces tueurs en série, combien les victimes étaient laissées pour compte. Donc on peut espérer qu'avec des juges dont le métier sera de résoudre ces affaires, ces cold cases ou ces crimes en série, eh bien, on va avoir beaucoup plus de résultats que ce qu'on a aujourd'hui.
On ne sait pas aujourd'hui combien de dossiers non résolus existent. Ce qu'on peut dire, c'est que ces dossiers qui durent sont entre 150 et 200 par an. Combien de magistrats nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas traiter les dossiers, qu'on n'y pensait pas, qu'on n'allait pas mettre de moyens. Certes, c'était triste parce que c'était des homicides. Un des challenges de ce pôle, ça va être d'obtenir les procédures papier, d'obtenir la préservation des scellés. Enfin, c'est tout un système. On aura, on l'espère, des magistrats qui vont se saisir de cette problématique.
Les avocats Didier Seban et Corinne Herman, au micro de Corinne Audouin, retrouvés également en longueur toute la semaine dans le feuilleton du 13-14, une semaine dans leur vie. Allez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, même en musique classique. Voilà un colossal travail qui force l'admiration. Celui de la pianiste Béatrice Berut, fan de Mahler et de Schoenberg, dont elle ne pouvait pas jouer les pièces écrites pour orchestre. Alors qu'à cela ne tienne, Stéphane Capron, elle a décidé d'écrire elle-même les partitions et les présente dans un album qui vient de sortir.
Il a fallu plusieurs années à Béatrice Berut pour achever ce rêve, jouer au piano ses symphonies de Mahler, un travail d'immersion dans l'œuvre du compositeur.
La première chose, c'était d'essayer de bien comprendre la pensée de Mahler, qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce que j'allais en garder, et après de laisser un peu sédimenter dans mon oreille intérieure et de me dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je fais autour pour que ça sonne bien, que ce soit des belles œuvres pianistiques.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas en s'installant au piano que Béatrice Berut est parvenue à bout de ce travail titanesque.
Le plus gros du travail, je le faisais loin du piano, je le faisais en faisant de la randonnée à ski ou en marchant en montagne, et en fait ça travaillait en continu dans ma tête.
Ce qui lui a donné le plus de fil à retordre, c'est la pièce de Schoenberg.
Après avoir fait presque la moitié de la pièce, c'est déjà un quart d'heure de musique, je me suis dit non, c'est nul, ça vaut pas la peine. Je vais pas faire une mauvaise nuit transfigurée, c'est trop dommage. Du coup, j'ai tout jeté, puis je me suis dit, alors, lâchons les chevaux maintenant, j'ai envie de me faire plaisir avec cette œuvre, je vais en garder les contours essentiels et le reste, je fais une grande paraphrase pour piano.
Le résultat donne un album d'une fougue incroyable. Béatrice Berut enflamme littéralement son piano.
Et ça s'appelle Jugendstil, l'album de Béatrice Berut, et c'est sur le label Dolce Volta.
Merci à vous Anaïs Feuga. Le Zoom, dans 3 minutes, plus de 500 000 Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. Nous serons à la gare centrale de Kiev.